Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 minutes avec. Cette semaine, nous sommes avec une famille d'artistes. Je suis accompagnée au studio de Paloma de Dianus qui a écrit le livre Mathilde fait sa vie. Il est paru le 6 juillet dernier aux éditions Le Lys Bleu et je suis également accompagnée de sa maman Camille. Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro sur justement la vie de famille artistique et également avec une personne atteinte de handicap. Camille, est-ce que tu peux nous donner justement déjà ton ressenti sur quand Paloma a eu envie d'écrire, quelle est la première chose que tu t'es dit?
Alors bonjour Ambline déjà. Paloma ne m'a pas dit j'ai envie d'écrire, Paloma a écrit et m'a présenté ses chapitres au fur et à mesure qu'elle les pondait. Et je les ai lus pendant la conception de l'œuvre. Voilà.
D'accord. Donc en fait, Paloma, tu avais de suite une idée, tu l'as de suite mise sur ton ordinateur. Et après, tu l'as présentée à ta maman quand même vite. T'avais pas envie de le garder pour toi. C'était quand même quelque chose que tu voulais déjà sortir de base.
Oui. Sortir de base, je ne dirais pas ça parce que en fait, c'était juste une petite histoire. Souvent, je fais des petites histoires. Et au fur et à mesure, ça en est devenu un livre. Donc. Mon idée de base, c'était pas de faire un livre. Et oui, je l'ai tout de suite présenté à ma maman.
Mais en fait, c'est le fait d'être équipée d'un ordinateur à l'école qui lui a permis d'aboutir. Parce que jusqu'alors, elle écrivait papier, elle commençait, puis ça s'arrêtait, elle changeait de cahier. C'était. Voilà, ça manquait de construction et de suivi. Tandis qu'avec l'ordinateur et dans son OneNote, à l'école, ça lui a permis de continuer, de construire au fur et à mesure des jours, pendant les temps de pause, les temps calmes, elle écrivait. Voilà, pendant ces temps-là, donc c'est pour ça que ça a été un produit abouti.
Et après, est-ce que c'est vous qui avez pris l'initiative d'en faire un livre, de le faire paraître et que Paloma devienne la plus jeune autrice publiée de France?
Tout à fait, mais c'était même pas...
Imaginable.
Oui, imaginable. Je me suis dit, pour valoriser son travail, pour lui montrer que je m'y intéresse, que c'est sympa ce qu'elle a fait, je vais l'envoyer dans une maison d'édition. Mais j'attendais absolument aucun retour parce que c'était vraiment...
Moi, j'avais quand même une petite lueur, quand même.
Ah bon?
Quand même.
D'accord, ok.
On en apprend. On en apprend sur
donc
les ondes de Radio Lens Plus.
Quand ils ont été réactifs, alors déjà, moi, j'étais là, « Waouh, c'est génial, ils ont répondu !» Voilà, et puis après, étape par étape, ça a avancé. Ensuite, ils ont décidé de la signer, c'est passé en commission de lecture. Ensuite, ils ont signé. Ensuite, il y a eu les corrections. Après, il y a eu la mise en page. Ensuite, le graphisme, voilà, et ensuite le livre.
Et maintenant, tournée des médias, des séances de dédicaces.
Ça, c'est chouette.
Et même des envies, du coup, de peut-être tome 2. Est-ce que vous l'accompagnez beaucoup maintenant sur l'écriture ou elle reste encore,
Elle est en roue libre, toujours pas.
Indépendante.
Complètement, ah oui, ça c'est... Moi, je touche pas à ça. Paloma, elle est assez créative et assez autonome et pleine de vie pour faire ça... toute seule de son côté, voilà. Mais j'ai quand même eu la chance de lire le début du tome 2 de Mathilde.
Ouais. Donc il y a... avec quand même des avantages à être la maman de l'artiste directement.
Exactement.
Est-ce que vous voyez que d'avoir écrit ce livre, Mathilde fait sa vie, est-ce que vous voyez un changement peut-être de Paloma, en tout cas une comment dire, une meilleure compréhension de elle, de sa personne à elle, parce que dans le premier épisode, on en parlait, hein, donc de HPI, TDAH et des troubles 10. Est-ce que le livre l'aide à...
avoir une meilleure estime de soi.
Voilà, exactement.
Ça, c'est clair. Je la vois évoluer et être avec les médias très à l'aise, se prêter au jeu. Et je la trouve formidable. Elle m'épate. Vraiment, je m'étais au départ... avec son attaché de presse, là, Jean-Pierre, on se demandait est-ce que ça va passer, est-ce qu'elle sera à l'aise et bien. Je suis vraiment agréablement surprise et je la découvre. Mmh. Et, je la trouve vraiment formidable. Je suis épatée. Ouais, tu m'épates, Paloma.
Et justement, donc le fait d'être donc avec une artiste et une personne donc atteinte de handicap, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez donner peut-être un message aux auditeurs, auditrices qui nous écouteraient sur comment vous le vivez déjà en tant que mère, en tant que femme, mais également comment vous voyez le fait de rendre indépendante Paloma et de lui laisser la place de ses loisirs, ce que ça peut engendrer.
Alors, d'être maman d'une enfant avec un handicap invisible, c'est très compliqué, parce que justement, le handicap est invisible, donc pas perceptible par les gens autour de nous. Donc, ce qui implique souvent de l'incompréhension de la part de l'entourage ou des gens à qui on se frotte, ses maîtresses, ses professeurs de sport ou de musique. Voilà, donc, ce n'est pas toujours évident. S'il lui manquait un bras, bah, voilà, ça se voit, là, un bras en moins. Ok, voilà, tu n'as pas de bras. Mais là, c'est beaucoup plus subtil. Donc, ça amène toute une, pour elle comme pour moi, un fonctionnement avec notre entourage qui doit être... on marche un peu sur des œufs, voilà. Et parce que ça peut être souvent jugé, ses réactions, les miennes, notre relation, qui est bien sûr assez très fusionnelle, parce que ça implique beaucoup d'implications et de sa part et de ma part. Donc, on a une relation particulière, ça c'est certain. Mais qui est fabuleuse, qui est très...
Qui est riche.
Qui est riche, énergivore, mais riche. Et moi, ce que je peux dire aux parents, aux enfants qui ont ces troubles-là, des troubles invisibles, des handicaps invisibles, ben, c'est que tous les jours suffisent à peine et que ça fait des belles choses. Voilà, c'est très créatif, une enfant zèbre, une enfant neuroatypique, comme on dit. Ben, c'est fabuleux, je ne changerai pour rien au monde parce que... elle est pleine de vie, pleine de surprises, pleine d'humour. Et voilà, moi je suis très fière d'elle et de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle fera. Ouais. J'ai confiance en elle, ça c'est sûr.
Est-ce que tu aurais quelque chose à répondre à ta maman peut-être, Paloma? Tu la regardes avec des jolis yeux.
Oui, bah c'est gentil. Oui.
On peut également parler peut-être des associations et des personnes qui soutiennent, justement, qui sont en soutien auprès des familles qui ont une personne diagnostiquée avec un handicap, donc soit mental, soit physique. Hein, donc là, on est bien sûr un invisible. Tu nous parlais justement, Paloma, de l'association FUSO. Camille, est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter un peu plus d'explications sur leur but ?
Leur fonctionnement. Alors, FUSO, c'est une association de parents qui sont parents donc d'enfants neuroatypiques, multidis, généralement, TDA avec H ou pas, H qui veut dire hyperactivité cérébrale ou physique, ça peut être l'un ou l'autre. Ils accompagnent les familles, donc on achète l'ordinateur à l'association FUSO au prix coûtant, rempli de logiciels, le OneNote, la barre Studis, les Word, les choses comme ça, pour que nos enfants puissent aller à l'école et avoir les chances, comme tout le monde, de pouvoir suivre une scolarité normale, dans un milieu ordinaire. C'est-à-dire, Paloma, elle est infichue alors qu'elle écrit un livre, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans une maison d'édition, il y a un service de correction. Moi, quand je leur ai envoyé le script, c'était tel quel, donc avec... Ça relève même pas de la faute, parce que c'est de la dysorthographie. On peut même pas parler de faute à ce niveau-là. Mais l'ordinateur lui permet, avec les correcteurs d'orthographe, quand elle commence à lancer un mot, ben ça lui fait des propositions. Alors bon, si on part avec la mauvaise proposition de mot, on met un T ou un F, voilà, et ben ça, je trouverai pas le bon mot, mais ça permet quand même de grandes possibilités, et surtout en classe, de rendre des devoirs, des copies qui sont pas truffées de fautes qui sont très péjoratives. Et en plus, c'est marrant parce que moi, la première, quand je lis des textos, des choses où il y a des fautes, ça fait ou des mecs, je les remarque tout de suite. Et du coup, je suis beaucoup plus sereine et en paix avec les gens qui font des fautes. Et je comprends maintenant d'où ça peut venir complètement. Et je suis super, super à l'aise avec ça, du coup. moins dans le jugement, mais plus dans l'accompagnement, et de dire, bah oui, bah voilà, on n'est pas tous... on part pas tous sur la même ligne de départ, voilà, on peut avoir des cailloux dans la chaussure, et il suffit juste de savoir... mettre les bonnes chaussures pour avancer comme il faut.
Je trouve que c'est une très belle phrase de fin pour clôturer nos 10 minutes, être moins dans le jugement, plus dans l'accompagnement.
Exactement.
Merci beaucoup Camille et Paloma d'avoir été avec nous au studio.
Merci.
Et on a hâte du tome 2.
Oui.
Je vous rappelle, il faut aller lire Mathilde fait sa vie, paru aux éditions Le Lys Bleu, paru le 6 juillet dernier, et que vous pouvez retrouver notamment à la librairie Peter Pan à Nîmes.
Merci.